De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Quand un prix remis à une militante française anti-charbon prend l'allure d'une carte de vœux et lève un vent d'espoir, c'est la planète qui reprend un peu son souffle. Couronnée du prestigieux prix Goldman 2020 pour l'environnement, Lucie Pinson voit son parcours et ses objectifs mis à l'honneur. Elle qui œuvre en faveur d'un divorce entre la finance et le charbon. Remis chaque année à 6 activistes engagés pour la protection de la planète et du vivant depuis 1989, le prix Goldman est souvent présenté comme le Nobel de l'environnement. Il vient saluer le travail acharné de cette Nantaise de 35 ans qui lutte contre les financements destinés à l'exploitation du charbon via de grandes banques, des sociétés d'assurance et d'investissement. Bonsoir Lucie Pinson.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance et vos victoires remportées en France et à l'échelle européenne font de vous l'une des figures du combat contre le réchauffement climatique. Avec nous aussi pour parler de ce sujet, l'économiste Laurence Cialom. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre, auteur notamment du livre La fascination de l'ogre ou Comment desserrer l'étau de la finance, un livre paru chez Fayard. Regard croisé donc ce soir avec vous afin de mieux comprendre le rôle du monde de la finance et du système bancaire dans les questions écologiques, d'analyser leur politique, leur impact sur les enjeux environnementaux et puis de questionner l'avenir de ce secteur face à la double urgence climatique et financière. Et dans l'œil du monde planète, c'est la journaliste Audrey Garic qui nous livrera son choix info de la semaine. Elle a choisi de nous parler d'une femme engagée pour le climat, Tina Stage. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales, avec toujours la fine équipe Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chaussé, Vanessa Chang. Émission réalisée par Doria Zénine, avec à la technique Laurie Vachon.
Je ne connais personne qui soit mort de cause naturelle ici. Même les jeunes meurent et ceux qui survivent sont malades.
Goran Stoyak est né et a grandi dans un village de la banlieue de Tuzla, à une centaine de kilomètres de Sarajevo. Un lieu, symbole de la dépendance de la Bosnie-Herzégovine au charbon, symbole aussi des ravages des énergies fossiles. Ici se trouve la plus grande centrale thermique à charbon du pays. Elle émet du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et des particules fines en grande quantité, mais pas seulement. Les déchets toxiques du site contaminent aussi le sol, l'eau et la chaîne alimentaire des riverains. Denis Zisko, qui dirige une ONG locale, nous conduit à l'endroit où sont déversés ces résidus.
Ici, c'est le lieu où l'on peut visualiser le problème concentré dans une zone. Comme vous le voyez, il n'y a pas de revêtement. Il n'y a aucune protection pour empêcher l'eau de pénétrer dans le sol et les nappes phréatiques. Le pH de cette eau est à 11 ou 12. Elle est remplie de métaux lourds et de produits chimiques qui sont utilisés par la centrale. Et toute cette pollution va dans les sous-sols.
L'an dernier, le gouvernement bosnien a décidé d'agrandir la centrale grâce à un prêt chinois de 680 millions de dollars.
C'était un reportage diffusé sur Euronews le 14 février 2020. Pour information, d'ailleurs, d'ici 2030, ce sont 17 nouvelles centrales à charbon qui sont prévues dans les Balkans. Lucie Pinson, l'exploitation du charbon continue sa progression en certains pays du monde ?
Alors oui, malheureusement, il y a toujours des centaines de centrales à charbon qui sont en développement. Donc des incohérences avec les objectifs que nous avons pu prendre à Paris il y a 5 ans, à savoir de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou en tout cas bien en dessous de 2 degrés. Aujourd'hui, on sait que toute nouvelle centrale à charbon nous éloigne de cet objectif et pourtant des entreprises continuent de les développer avec le soutien des acteurs financiers. Et comme on l'a entendu dans ce documentaire, c'est que c'est pas seulement un problème pour le climat, c'est avant tout un problème de justice sociale et de justice environnementale. Le charbon, certes, pollue, alimente le dérèglement climatique, mais aussi est responsable de graves pollutions et est une plaie pour la santé des populations. C'est 800 000 morts prématurées par an qui sont causées en raison de l'exploitation du charbon.
Et oui, c'est un petit rappel qu'on peut faire effectivement dans cette situation d'urgence climatique et de perte de la biodiversité. Donc 40% des émissions de CO2 le sont par le secteur énergétique. On déplore 800 000 morts prématurées par an à cause de la pollution atmosphérique. Et puis donc plus de 1000 nouvelles centrales à charbon sont prévues, hein, je crois, Lucie Pinson, surtout en Asie. Et on en dénombre déjà à peu près 6600, je crois.
Alors, en effet, on en a plus de 1000 aujourd'hui, enfin en tout cas autour de 1000 en développement ou dans les cartons, et puis on en a plus de 6700 en opération dans le monde. Ces centrales-là, on est dans une course contre la montre puisque on va devoir les fermer dans la majorité des cas dans la décennie qui arrive, de manière à complètement sortir du charbon d'ici 2030 dans les pays de l'OCDE et de l'Union européenne, et d'ici 2040 dans le reste du monde. Donc on a vraiment très peu de temps, et on l'a vu en France avec seulement 4 centrales à charbon, que c'est pas si facile que ça de fermer une centrale. Il faut prévoir les alternatives, faut se mettre au travail, faut prévoir aussi l'avenir et la reconversion des salariés. Et donc, on a vraiment aujourd'hui une incohérence au niveau de ce vers quoi il faut tendre et ce que nous sommes encore en train de faire. Et malheureusement, voilà, les acteurs financiers n'ont pas pris encore la mesure de l'urgence.
Laurence Yalom, l'urgence climatique est aussi et surtout une urgence financière?
Alors, l'urgence climatique est aussi une urgence financière, et ça, je pense que le monde de la finance, en tout cas des banquiers centraux, des régulateurs, en a conscience. Et je dirais vraiment que le point de basculement, ça a été 2015, hein, avec un discours très fameux du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui, devant la Lloyds, c'est-à-dire devant des assureurs, a expliqué au monde de la finance bien que dans son propre intérêt, il devait s'intéresser à la question de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que le climat crée de nouveaux risques financiers qui sont des risques d'emblée systémiques. Et comme c'est systémique, ça influe sur la stabilité financière, ça peut générer des crises financières massives. Et du coup, les banques centrales elles-mêmes se sont mises à travailler sur cette question de manière très intense, hein, et ont créé notamment le NGFS, c'est-à-dire un réseau de banquiers centrales et de régulateurs dans lequel la Banque de France est très active, hein, sur ces questions-là. Pour autant, ça ne veut pas dire que les choses changent massivement. Mais la prise de conscience est là.
Et oui, la prise de conscience, parce que face au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles qui se multiplient et se font plus violentes, il y a d'énormes pertes financières, hein, lourdes. Alors, on a beaucoup parlé des assureurs, mais lourdes aussi pour des compagnies, hein, comme les compagnies pétrolières notamment. On l'a vu avec cette crise sanitaire de Covid-19. Ce que vous nous dites, hein, Laurence Yalom, c'est que le nerf de la guerre reste toujours l'argent, hein, au-delà de l'image. Donc, les secteurs financiers ont tout à y gagner. À justement être plus vertueux.
Eh bien, oui, ils ont à y gagner parce que, en fait, s'ils continuent à financer l'énergie fossile, ils s'exposent eux-mêmes à ce qu'on appelle l'échouage des actifs, c'est-à-dire que, en clair, si on a des politiques climatiques qui sont conformes à nos engagements dont t'as parlé, Lucie, hein, qui sont les engagements qu'on a pris lors des accords de Paris, ça veut dire qu'il va falloir massivement réallouer les flux financiers, en fait, des secteurs bruns, c'est-à-dire des secteurs très carbonés, vers des secteurs verts. Et si on met une taxe carbone, si on décide une politique ambitieuse du point de vue du mix énergétique, etc., la valorisation de ces actifs financiers va s'effondrer. Et donc, ça veut dire des pertes. Ça veut dire des pertes pour les gestionnaires d'actifs. Ça veut dire des pertes pour les banques qui prêtent à ces secteurs. Et donc, dans leur propre intérêt, ils ont intérêt à se désengager. Le problème, c'est que, si vous voulez, les choix qui sont faits par les acteurs financiers se font sur la base d'un couple rendement-risque anticipé qui tarifie très mal les risques, c'est-à-dire qui est incapable de tarifier ces risques parce que c'est un risque nouveau. Or, nos modèles de risque sont basés sur le passé, sont alimentés par des risques qui se sont déjà produits, et les rendements eux-mêmes sont mal tarifés, bien parce qu'on ne tient pas compte notamment des rendements sociaux qu'il y a à réduire les gaz à effet de serre. Donc, l'investisseur, lui, ce qui l'intéresse simplement, c'est le rendement qu'il peut s'approprier, pas le rendement social de son investissement, et les risques que lui-même subit, mais qu'il tarifie très mal, qu'il appréhende très mal, parce que ce sont des risques nouveaux.
Donc nous sommes peut-être en train de vivre un moment de bascule hein, pour ces institutions financières qui jusque-là ne se posaient pas forcément ces questions environnementales. Lucie Pinson, on l'a compris hein, depuis le début de l'émission, donc vous êtes une des lauréates du prix Goldman 2020. Dites-nous peut-être depuis quand est-ce que vous menez ce combat. Laurent Cialom parlait de l'année 2015, mais je crois que pour vous ça remonte bien avant. Donc ce combat, je le rappelle, en faveur de l'arrêt des financements du secteur du charbon et pour stopper les soutiens directs des banques ou des investisseurs à de nouveaux projets de mines et de centrales à charbon. Et puis parlez-nous peut-être aussi des leviers que vous utilisez, des méthodes.
Oui, alors en effet, c'est un combat qui remonte à longtemps, vraiment sur l'enjeu charbon et financement, donc couper les financements à pas un, mais tous les projets, les nouveaux projets de centrales ou de mines ou d'infrastructures liées au secteur du charbon, puis également aller au niveau des entreprises pour également pousser les banques, les sociétés d'investissement ou les assureurs à pas seulement se poser la question des nouveaux projets, mais à également se poser la question de leur financement aux entreprises qui sont derrière, comme Engie, comme EDF, comme RWE en Allemagne. Eh bien ça, c'est un combat qu'on a débuté avec les Amis de la Terre France en 2013, donc 2 ans et demi avant la COP 21. Et je vais revenir sur les propos de Laurence, un des points vraiment sur lequel on appuie beaucoup et qui est vraiment la colonne vertébrale de notre engagement, c'est que on va avoir une approche vraiment qui vise à pousser les acteurs financiers à ne plus être moteurs de la catastrophe climatique. Et c'est vrai que Laurence parlait du dérèglement climatique qui va entraîner des pertes certaines, un risque d'instabilité financière, et donc ils ont tout intérêt à agir sur le long terme, mais Laurence a très bien fait référence au discours de McCartney en 2015 qui dit qu'il y a un problème, il y a une tragédie de l'horizon, à savoir sur le court terme, on ne peut pas prendre ces risques-là en compte. Et donc du coup, les acteurs financiers continuent d'aggraver la situation climatique en finançant toujours plus d'énergie fossile. Nous, notre parti pris, c'est qu'en fait, oui, très bien, ça, c'est normal qu'un acteur individuel soit concerné par sa survie de demain et donc veut gérer le risque des dérèglements climatiques sur lui-même, sur sa propre rentabilité. Mais nous, on n'est pas d'accord avec cette approche parce que on considère que il faut avoir une approche de précaution et que il faut pas oublier qu'en 2015, on a pris un engagement, celui de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Les acteurs financiers, pour leur majorité, se sont engagés aussi à contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et donc, avant même d'éviter l'impact du dérèglement climatique sur leurs activités, eh bien, ils devraient éviter de nourrir le dérèglement climatique, de prévenir celui-ci. Et donc, il ne s'agit pas de prévenir le risque, mais de gérer l'impact. Et donc, d'arrêter de financer des projets ou des entreprises qui génèrent cette aggravation, qui sont moteurs du dérèglement climatique.
Il faut bien avouer, Lucie Pinson, que rien ne les oblige, même si la France ou on peut penser à la BCE, par exemple, qui étant une institution européenne, devrait être liée à l'accord de Paris. Rien n'oblige, en fait, fermement à s'engager sur ce terrain-là.
Alors tout à fait, on pourrait y revenir plus tard. C'est sûr que nous appelons le gouvernement français et au-delà, la BCE, à aller beaucoup plus loin dans l'encadrement des activités des acteurs financiers. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont quand même à y gagner aussi sur le court terme. Et ça, c'est notamment, je vais vous expliquer comment on a travaillé sur le secteur du charbon. D'abord, il faut comprendre que la première chose qu'on va faire, c'est de se saisir d'un sujet qui va résonner dans l'espace public, sur lequel on va pouvoir appuyer, ça va faire sens, et sur lequel on va pouvoir avoir le soutien de la population. On a choisi le secteur du charbon parce que il a un impact très grave sur le climat, mais c'était aussi un secteur sur lequel on a perçu une capacité d'atteindre des objectifs précis. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va rencontrer les acteurs financiers pour leur expliquer les intérêts qu'ils ont à agir et les différents arguments qu'ils peuvent utiliser pour pousser le sujet en interne. Et là, notre parti pris, c'est pas forcément de parler seulement finance et économie, de parler avec les gros chiffres, ou en tout cas, on va parler chiffres, mais avec d'autres chiffres. On va nous parler de la réalité humaine derrière l'industrie du charbon. On l'a entendu dans le reportage, on va parler de personnes impactées, des morts prématurées, du nombre de populations avec une entrée à l'hôpital. On va parler impact de la pollution. On va montrer cette réalité humaine. Et non seulement ça va déjà nous permettre des fois d'enclencher quand même une réaction en interne, parce que on parle à des représentants de grandes banques, de grandes sociétés d'assurance, donc ça reste des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui concernés par, ou pas, ça arrive, ça ne soit pas le cas, mais la majorité quand même sont concernés par ces questions-là. Donc eux-mêmes vont se saisir du dossier et voir comment faire avancer en interne. Et cette discussion va permettre de leur faire prendre conscience du risque réputationnel pour leur image, d'avoir cette histoire-là déballés dans l'espace public, alors que ce sont des banques qui ont quand même des clients, qui ont des salariés qu'il va falloir motiver, qui ont des salariés que demain ils vont vouloir embaucher. Et aujourd'hui, on voit bien que le climat, c'est une préoccupation majeure de la population française. Et donc, il va falloir quand même donner des gages de leur engagement en matière climatique.
Oui, donc Lucie Pinson, finalement, c'est à la fois convaincre et puis montrer qu'il y a aussi la contrainte qui est un autre levier pour vous et brandir finalement la peur du regard des citoyens sur ces institutions financières.
C'est certain. Toujours essayer de convaincre avant de contraindre, avant d'en venir vraiment au rapport de force au niveau public. Parce que tout simplement, le dérèglement climatique remet en question l'intégralité de nos modes de consommation et de production. On l'a bien entendu, le rapport du GIEC en 2018 a dit que c'est toujours possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré, mais l'intégralité des modes de consommation et de production doivent être revus. C'est des efforts colossaux. Et donc, tout ce qui peut être gagné en interne par la discussion ou par le rapport de force, mais en privé, eh ben, c'est tant mieux. Et vraiment, c'est en dernier ressort, si ça ne marche pas, eh bien là, en effet, nous allons mettre en concurrence les acteurs dans l'espace public et dénoncer leur greenwashing lorsque leurs pratiques ne sont pas au niveau de leurs engagements.
Alors, avant d'aller plus loin dans cette discussion et d'entendre justement la réaction de Laurence Cielhomme, je vous propose d'écouter ce reportage diffusé dans l'œil du 20h sur France 2 le 12 novembre 2020.
À la suite de la COP21, la BNP a pris une série d'engagements pour l'environnement, comme celui-ci.
BNP Paribas ne fournira pas de services ou produits financiers à des sociétés pour lesquelles le pétrole et le gaz non conventionnel représentent une part importante de leurs réserves totales.
Les gaz de schiste, promis juré, c'est terminé. 3 ans après, nous avons analysé les placements de la banque, publiés sur des terminaux financiers. Et surprise, la BNP est encore très présente dans les hydrocarbures non conventionnels. Selon nos calculs, au moins 70 millions d'euros de placements récents dans des entreprises qui ne respectent pas les critères édictés par la banque. Pour cet investisseur spécialisé dans les hydrocarbures aux États-Unis, les banques n'ont pas encore d'alternative.
Le dilemme pour la banque, c'est d'aller trouver un autre secteur qui est aussi profitable.
Un décalage entre les paroles et le portefeuille, c'est ce que dénonce cette ONG qui a passé en revue les investissements des banques françaises.
Malgré nos alertes, BNP Paribas continue à soutenir des entreprises qu'elle devrait avoir abandonnées il y a déjà 3 ans. On se pose réellement la question de l'intégrité de la banque.
Contacté, BNP Paribas maintient ses objectifs de désengagement du pétrole de schiste, même s'il reste encore du chemin à faire.
Aujourd'hui, c'est 70 millions à l'échelle de BNP Paribas, c'est tout petit. C'est le poids de l'histoire, ça met plus de temps parce qu'on est dépendant de la décision de nos clients. Mais ça s'inscrit dans une démarche d'évolution qui va dans le bon sens.
Depuis la mise en œuvre de cette politique, BNP dit avoir abandonné une 60aine d'entreprises clientes. Ce qui représenterait la perte de 100 millions d'euros de revenus annuels.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Laurence Cielhomme, je viens chercher vers vous un regard, bien sûr, à la fois sur ce reportage, sur les propos précédents de Lucie Pinson et concrètement ces engagements qui souvent sont pris à échéance 2030-2050, mais on voit bien qu'ils ne sont pas forcément tenus. Ça pose la question aussi des moyens de contrôle, de la réalité des engagements.
Ce qu'a expliqué Lucie, et je pense que c'est très juste, enfin je vais le réinterpréter. Vous voyez, les banquiers centraux et les régulateurs, ils rentrent dans le sujet par les risques. C'est-à-dire les banquiers centraux et les régulateurs, ce qu'ils regardent, c'est le risque que le dérèglement climatique fait peser sur la finance et donc la transposition en risque financier systémique. La volonté de réallouer les flux financiers, donc de générer un désengagement, notamment de l'industrie fossile, charbon, mais au-delà, dès lors qu'on a des alternatives, eh bien, c'est pas renverser le problème, c'est regarder l'autre face. C'est regarder le fait que la finance, si elle ne change pas, a un effet de retour qui est dramatique sur le climat. Donc, c'est pas juste le dérèglement climatique qui impacte négativement la finance, mais c'est la finance, si elle ne change pas rapidement et drastiquement, notamment par une réallocation des flux financiers, eh bien, elle a un impact négatif d'accélération du réchauffement climatique. Et donc, si vous voulez, les deux sont complémentaires, mais ce sont des angles de vue, si vous voulez, qui sont très différents, en fait.
Alors, est-ce que les institutions financières peuvent exiger de leurs clients la publication, par exemple, des plans de réduction progressive de leurs activités dans ce domaine ?
Alors, je pense qu'on avance, en fait, si vous voulez. Et le problème, si vous voulez, c'est actuellement, les régulateurs, les policy makers, en fait, leur démarche, c'est de dire il faut augmenter la divulgation des informations. Il faut standardiser les informations de manière à avoir une information extra-financière qui va mieux guider les investissements. Personnellement, je pense que c'est important, c'est une avancée, mais je pense que c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire penser que dès lors qu'on aurait toute l'information, on réallouerait, les flux par magie se réallouerait, ça je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il faut avoir un État qui est beaucoup plus intrusif sur la finance et qui, par des régulations, par un ciblage de la création monétaire, par des outils utilisés par les banques centrales, faciliterait, réorganiserait en fait la finance et aiderait à cette réallocation, eh bien en pénalisant, soit en prix notamment, les financements de l'industrie carbonée, en prenant à sa charge les éventuelles pertes qui pourraient résulter d'investissements au contraire des secteurs verts. Donc l'État a les moyens par toute une palette, l'État et les banques centrales, par toute une palette d'instruments, en fait, de réorienter la finance dans le bon sens. Le problème, c'est que, malgré le fait qu'on a eu une crise financière majeure il y a 12 ans, l'État néolibéral reste imprégné d'une doctrine pro-marché qui est très ancrée et qui entrave en fait son action, le fait qu'il soit plus intrusif en fait dans l'organisation de la finance et dans la manière en fait dont la finance s'empare de la question climatique. Et ça, je pense que c'est une erreur.
Même si on a vu, puisque vous parliez de cette crise de 2008, les banques ont sauvé les marchés. Beaucoup attendraient le même sursaut pour sauver la Terre.
Les banques centrales ont sauvé le marché, se sont substituées au marché et elles continuent à se substituer. Les banques actuellement sont toujours, sous assistance respiratoire, avec les politiques monétaires qui sont menées par les banques centrales. Et on voit bien, les banques centrales s'interrogent beaucoup sur qu'est-ce qu'elles doivent faire. Mais si vous voulez, il y a des résistances très fortes. Par exemple, la BCE applique une doctrine qui est la doctrine de la neutralité au marché, où en fait, dans ses actions, elle revendique de ne pas créer de distorsion selon les acteurs du marché, de ne pas favoriser tel acteur au lieu de tel autre. Alors en fait, en réalité, cette neutralité au marché est une fiction, parce que évidemment, elle passe son temps à distordre son action, à avoir une action en favorisant certains acteurs et pas d'autres, puisqu'elle favorise considérablement les banques. Et en plus de ça, si vous voulez, ça signifierait, et c'est là qu'on voit qu'il y a bien une doctrine pro-marché, le fait que la BCE revendique cette neutralité au marché, c'est donc que le présupposé est que les marchés tarifient bien les risques, et donc que les prix de marché sont des reflets des fondamentaux de l'économie. Or, par essence, quand il s'agit d'environnement, d'un bien public mondial, les marchés sont incapables de les tarifer, puisque les marchés ne savent pas tarifer les externalités négatives et ne tarifient pas non plus les externalités positives. Donc ça veut dire que là, on est face à un problème qui est un problème qui nécessite, même avec des outils économiques standards, hein, qui nécessite une intervention de l'État.
Donc un jeu d'équilibriste aussi, parce que on comprend que pour les gouvernements et les banques centrales, favoriser la réorientation massive des flux financiers vers une économie bas carbone, sans accentuer la chute des actifs financiers qui sont adossés à cette industrie carbonée, eh bien ça pourrait quand même précipiter une crise financière et la crainte est certainement à ce niveau-là, Laurent Cialhomme.
Tout à fait, tout à fait. Et ça paralyse complètement l'action. Ça paralyse l'action. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard on agira, plus les risques, quand ils se manifesteront, seront importants, les risques financiers. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le système climatique a une inertie considérable. C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière, il n'y a pas de marche arrière. Tout ce qu'on n'aura pas fait, c'est perdu, définitivement perdu, avec des effets de rétroaction et des points de basculement qui fait qu'au-delà d'un certain niveau de réchauffement, il peut y avoir une dynamique d'emballement et c'est donc prendre un risque considérable, en fait, de ne pas agir dès maintenant. Mais vous avez raison, le fait de précipiter cette crise financière paralyse. Pour autant, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, hein, la crise du Covid, bah, d'une certaine manière, c'est la préfiguration de ce qui nous attend. Vous avez des secteurs entiers qui s'échouent. Et on voit bien que là, l'État est capable de réactiver tous ces, comment dire, tous ces outils régaliens et notamment d'assurance, hein, de ces secteurs, de se substituer au marché du travail par le chômage partiel en donnant les revenus aux salariés de ces secteurs qui ne peuvent plus travailler. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, mais avec une temporalité très différente, ce qu'on vit ressemble, préfigure. Et c'est bien pour ça qu'il faut s'y préparer et que et on voit bien un couplage de l'État et des banques centrales est capable d'accompagner l'échouage. Parce qu'évidemment, il faut reconvertir les salariés qui travaillent dans ces secteurs, il faut les accompagner socialement, il faut faire de grands plans de formation aux nouveaux métiers de la transition écologique. Donc tout ça, l'État a les moyens de le faire.
Lucie Pinson, une réaction sur ce terrain-là. On comprend bien que le compte est encore loin, hein, même dans vos actions. On parlait des politiques d'exclusion du charbon, mais elles sont encore insuffisantes. Et puis, je sais que vous pointez aussi du doigt d'autres secteurs, hein, comme celui du gaz, du pétrole, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, qui sont des terrains aussi à investir, hein, pour vous et vos équipes. On comprend que dans ce jeu-là, c'est beaucoup plus complexe que le seul fait d'aller convaincre des investisseurs, des banques, des assureurs pour engager en tout cas la politique de demain.
Peut-être pour revenir sur ce qui a été dit avant de donner des éléments de réponse, je pense que Laurence a tout à fait raison. La double approche par les risques et fondée sur la neutralité au marché de la BCE est totalement anachronique. 5 ans après l'accord de Paris, de refuser d'agir activement pour accélérer une sortie des énergies fossiles et en tout cas arrêter de soutenir leur développement. On a des banques centrales au-delà de la BCE, y compris la Banque de France, qui ont des politiques sur le charbon aujourd'hui qui sont moins disantes que celles des acteurs privés. Donc on a quand même un gros problème à ce niveau-là. L'autre problème, et on le voit aussi bien du côté des acteurs privés que des acteurs publics type banque centrale, c'est que la réponse de la BCE à la crise du Covid et puis aux demandes des citoyens, il y a eu une pétition qui a fait plus de 150 000 signatures demandant à la BCE de se servir des plans de relance pour accélérer la transition écologique, eh bien la réponse de la BCE et de Christine Lagarde a été de dire « on va acheter des obligations vertes ». Comme si voilà, à l'achat d'obligations vertes, ajouter une petite couche de verte à une pyramide d'activités fossiles va suffire à nous entraîner dans la bonne direction. Et ça, pas du tout. Là, on est plutôt d'accord avec l'idée que il va falloir, en effet, dans transition, il y a l'idée de faire passer des entreprises aujourd'hui qui sont dans des secteurs polluants du côté des secteurs non polluants, vertueux. Le problème aujourd'hui, c'est que ce discours-là, cette idée d'accompagner les entreprises sur la transition, qui est quelque chose qui est vraiment porté à bras-le-corps aujourd'hui par les acteurs financiers de la place de Paris, malheureusement, c'est surtout utilisé pour justifier un maintien des financements sans condition aux entreprises des énergies fossiles, même quand ces entreprises-là ne sont pas du tout intéressées par l'idée de transition. Nous avons publié un rapport la semaine dernière avec 17 autres ONG. Ce rapport montre que les banques françaises font toujours partie des 20 plus gros financeurs aux entreprises à l'avant-garde de l'expansion des énergies fossiles. Alors que la science nous dit, il y a eu un rapport des Nations Unies également la semaine dernière, qui nous dit qu'on doit baisser de 6% par an la production d'hydrocarbures. Or aujourd'hui, on continue de financer des Total, des Shell, des BP, qui aujourd'hui vont dans la direction opposée en développant des nouveaux projets, y compris dans les gaz et pétrole de schiste, sur le principe qu'il faudrait les accompagner sur la transition. Donc ça, voilà, là, on a un cas de figure typique de greenwashing. Le problème, c'est que, enfin, d'abord, peut-être pour donner un petit côté positif, c'est que sur le charbon, on a réussi à pousser les acteurs financiers à dépasser cette approche par les risques, à seulement agir parce qu'ils verraient leur propre intérêt financiers sur le long terme à ne plus financer des entreprises actives dans le secteur du charbon. Ils ont dépassé cette approche-là et aujourd'hui, ils excluent l'intégralité des entreprises qui développent des nouveaux projets de centrales ou de mines à charbon sur le principe même que ces projets sont juste incompatibles avec l'horizon qu'on se donne, à savoir un objectif de 1,5 degré. Le problème, c'est qu'ils refusent de le faire pour les autres entreprises du pétrole, à commencer par Total, en se cachant derrière des engagements de très long terme qu'aurait pris Total. Total aurait pris un engagement à s'aligner, en tout cas aligner une partie de ses activités sur l'objectif 1,5 degré à l'horizon 2050. Donc cela suffirait à fermer les yeux sur le développement de Total dans des projets de gaz naturel liquéfié au Mozambique, en Arctique, des projets de gaz et pétrole de schiste dans un secteur dans lequel investit massivement Total aujourd'hui, etc.
Et alors, en même temps, cette entreprise donc affiche pourtant une politique d'investissement dans des énergies renouvelables. Vous parlez sur votre site de l'ONG Lucie Pinson aussi d'un événement que l'on peut mentionner peut-être pour nos auditeurs. Le 29 mai 2020, 16,8% des actionnaires du géant pétrolier ont voté en faveur de la première résolution climat jamais déposée en France et on compte 11,12% d'abstention. C'est une première. Est-ce que des actionnaires, des citoyens vont peut-être potentiellement faire bouger les choses?
Alors des actionnaires, en effet, c'était une première en France. Donc ça met un terme au mythe selon lequel on ne pourrait pas en France déposer des résolutions aux assemblées générales des grandes multinationales. En effet, 16%, c'est bien, mais c'est pas beaucoup quand même. Et on voit l'embarras de certains acteurs financiers, comme BNP Paribas, qui font partie des abstentionnistes, qui voient bien qu'il y a un problème quand même à refuser une résolution qui ne fait que prendre Total au mot et demander à Total d'adopter des objectifs de court, moyen et long terme pour décarboner réellement ses activités. Qui ne dit pas à Total fermer la porte du jour au lendemain et on n'en parle plus. Il demande juste à Total de se mettre dans un processus de transformation. Donc BNP a bien senti que c'était totalement légitime et en même temps, on ne veut pas fâcher le copain Total, donc on ne va pas jusqu'à voter pour. Inversement, on a des actionnaires donc, qui ont fait opposition sur cette résolution alors qu'ils se sont eux-mêmes engagés à aligner leur portefeuille d'investissement sur un objectif 1,5 degré. On peut nommer par exemple AXA, mais on pourrait aussi nommer Amundi, Natixis, Lyxor de Société Générale, ils ont tous voté contre. Et au bout d'un moment, il y a une incohérence tout de même. Si nous prenons l'engagement d'aligner nos propres portefeuilles d'actifs sur un horizon 1,5 degré, dans le monde réel, il n'y a pas 36 000 moyens d'y parvenir en fait, il n'y en a que deux. Un, les entreprises de nos portefeuilles s'alignent sur cet objectif eux-mêmes, puisque notre portefeuille d'investissement n'est que le reflet de la trajectoire suivie par les entreprises en portefeuille. Ou deux, on désinvestit de ces entreprises. Or là, on voit bien que Total n'est pas du tout dans un processus de transformation sincère. Pour l'instant, ses plans d'investissement dans les énergies fossiles entre maintenant et 2030 n'ont absolument pas changé. Et donc, soit on désinvestit Total, ce qui est absolument hors de la table des négociations aujourd'hui au niveau des acteurs financiers parisiens, soit on engage sincèrement Total. Oui. Et donc là, on peut saluer en effet les efforts de Crédit Mutuel, de la Banque Postale, de Mescart, etc., qui ont eu le courage de déposer cette résolution.
Alors on imagine sur votre site que vous tenez à jour la liste des investisseurs verts, orange, rouge ou noir. Laurence Sialom, une réaction rapide à ce stade de l'émission, avant d'écouter votre choix musical qu'on va découvrir dans un instant.
Oui, je pense que Lucie a raison. Il faut absolument décrypter et publiciser ce qui se fait dans les assemblées générales d'actionnaires et autour de ces résolutions, parce que un certain nombre d'acteurs de la finance font du greenwashing. Un cas célèbre, c'est BlackRock. BlackRock, qui est donc un des plus grands gestionnaires d'actifs au niveau mondial, qui affirme par la voix de son dirigeant un activisme vert et qui votent quasiment jamais les résolutions pro-climat. Et donc le fait qu'il y ait des ONG qui recensent en fait les positions qui sont prises par les investisseurs lors des assemblées générales d'actionnaires est essentiel. Et là, il faut faire du name and shame. Enfin, je crois énormément en fait au contre-pouvoir de la société civile organisée à travers les ONG. Et c'est un levier d'action important.
Mmh. Alors, Janis Joplin, Summertime, c'est votre choix, Laurence Sialom. C'est juste pour vous faire du bien en cette période.
Exactement. Écoutez, 69, je pense qu'on avait, beaucoup été tout petits, ce qui était mon cas. Mais c'est une période d'insouciance, disons. Et puis Janis Joplin, c'est physique, quoi, ce qu'elle nous fait ressentir. Donc voilà, c'est cette interprétation de Summertime qui est ma préférée. Summer.
Looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Na 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 na
Et oui, on profite jusqu'au bout de Janis Joplin, Summertime, effectivement une très belle interprétation choisie donc par Laurence Sialom. Et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, émission Regard croisé, avec Lucie Pinson, fondatrice et directrice de l'ONG Reclaim Finance, honorée du prestigieux prix Goldman 2020 pour l'environnement et saluée pour son action en faveur d'un divorce entre la finance et le charbon. Et puis avec nous, l'économiste donc Laurence Sialom, professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre, auteur notamment du livre « La fascination de l'ogre » ou « Comment desserrer l'étau de la finance », un livre paru chez Fayard. Et avec toutes les deux, bien voilà, on essaye de comprendre le rôle et de mieux le comprendre, ce rôle du monde de la finance et du secteur bancaire dans les questions écologiques, d'analyser leur politique et leur impact sur les enjeux environnementaux. C'est le but de cette émission, mais avant de poursuivre, je vous propose de prendre la direction de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Et dans l'actualité qui touche à l'environnement, c'est le coup de projecteur sur une info choisie par l'un ou l'une des journalistes du quotidien. Bonsoir Audrey Garic.
Bonsoir.
Vous êtes notre œil du monde planète ce soir. Merci d'être avec nous. Et votre choix s'est porté sur une femme qui vit au cœur du Pacifique.
Tout à fait. Vous ne connaissez sans doute pas son nom ni son visage. Peut-être ne savez-vous pas où se situe son pays, les îles Marshall. Tina Stage, l'ambassadrice climat de cet archipel composé d'un millier d'atolls au cœur du Pacifique, joue pourtant un rôle important dans la lutte contre la crise climatique. Son pays est en première ligne du dérèglement climatique et également en pointe du combat contre le réchauffement. Ce sont les îles Marshall, en effet, qui ont notamment poussé pour que l'objectif de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré figure dans l'accord de Paris sur le climat. Tina Stage, 44 ans, prend la parole dans tous les sommets climatiques depuis sa prise de fonction en 2018. À chaque fois, coiffée de sa couronne de fleurs, elle alerte sur l'urgence de la situation. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle au moment du sommet virtuel de l'action climatique le 12 décembre 2020. Et elle m'a raconté comment son pays subissait déjà de plein fouet le changement climatique. L'élévation du niveau de la mer, les fortes marées qui inondent les rivages de l'archipel et qui remplissent les puits d'eau salée. Il y a aussi l'épidémie de dengue de 2019 qui a fait beaucoup de victimes alors que la chaleur et l'humidité favorisent la reproduction des moustiques. Les typhons aussi de plus en plus intenses. Et au final, elle dit qu'elle a peur pour l'avenir de ses trois enfants. En pleine pandémie mondiale, il est évident pour elle qu'il faut agir d'urgence face à la crise climatique qu'elle juge d'une ampleur encore plus grande que la crise sanitaire.
Et alors Tina Stage, qui dresse aussi un parallèle, Audrey Garic, entre crise climatique et crise sanitaire, bien sûr.
Tina Stage, oui, elle fait ce parallèle et elle ressent en fait une proximité avec les personnes en première ligne de la crise sanitaire. Elle dit qu'elle s'est reconnue, elle et les autres habitants des îles, dans les travailleurs de la santé notamment, ceux qui ont consenti les plus grands sacrifices. Ceux aussi qui nous demandent de prendre toutes les précautions pour protéger les soignants et donc assurer la sécurité de tous. Elle dit que les nations des atolls, de la même façon, celles qui voient l'urgence climatique depuis des années, ont très tôt tiré la sonnette d'alarme et demandé à chacun de prendre des mesures pour protéger les petites îles et donc protéger le monde entier. Donc Tina Stage appelle les pays à accélérer leurs efforts dans la bataille climatique. Elle souhaite d'abord que des plans de relance post-Covid soient mis en place et qu'ils soient vraiment verts. Le rehaussement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2050, mais aussi pour 2030, et l'augmentation des financements climat destinés aux pays du Sud. Et elle dit qu'on arrive à un point critique où il faut faire davantage, en particulier de la part des principaux émetteurs. Ça lui semble possible comme jamais auparavant.
Alors on sent, Audrey Garic, que ce fut certainement une belle rencontre pour vous avec Tina Stage. Je vous propose de rester un petit peu avec nous, le temps de recueillir peut-être une réaction de nos deux invités, Lucie Pinson ou Laurence Sialom. Est-ce que c'est une femme que vous aviez eu l'occasion peut-être de regarder, d'observer dans sa lutte contre le réchauffement climatique?
Alors non, je la connais pas personnellement, mais en effet, c'est une réalité, la réalité qu'elle pointe et sur laquelle elle alerte le monde lors des conférences des partis, donc les COP tous les ans, est extrêmement importante. Il faut bien rappeler que derrière le dérèglement climatique se pose une question de justice, une question de ce qu'on appelle la justice climatique, qui est que les personnes les moins responsables des dérèglements climatiques sont celles en première ligne des impacts. Et donc, il y a vraiment un enjeu, aussi bien dans les plans de relance, mais dans l'intégration des mécanismes à développer en réponse aux dérèglements climatiques ou pour prévenir ces dérèglements climatiques, qu'on prenne en compte cet enjeu de la justice sociale et qu'on vienne en aide aux populations en première ligne et les moins responsables. Et on l'a vu samedi dernier, on a toujours, on peine encore, malheureusement, à réunir les petits 100 milliards de dollars sur lesquels les pays riches se sont engagés en 2015 pour aider les pays en première ligne du dérèglement climatique à, un, s'adapter à ce dérèglement et à ses impacts, et surtout à prévenir l'aggravation du dérèglement climatique. On n'a toujours pas ces 100 milliards sur la table, alors qu'à côté, on autorise des financements à la fois publics mais également privés, en somme beaucoup plus importantes, à aller au développement de secteurs complètement incompatibles avec les objectifs qu'on a pris. Donc on a encore une fois voilà, un problème d'échelle. On prend des engagements, mais on ne les tient pas.
Laurent Cialhomme, une réaction rapide. Alors, on peut aussi préciser que nous sommes dans cet anniversaire aussi de la COP21 à Paris, donc 5 ans après, que le président Macron a fait une déclaration proposant un référendum sur la modification de l'article 1er donc de la Constitution après passage devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Je le précise parce que Audrey Garrig, justement, pour le journal Le Monde, couvre toutes ces questions et de conventions citoyennes notamment.
Écoutez, la réaction, je ne connais pas la personne dont nous a parlé votre journaliste, mais je converge avec ce que nous dit Lucie sur le caractère indissociable en fait de lutter contre le réchauffement climatique et en même temps d'accompagner socialement, c'est-à-dire transition écologique et sociale sont intrinsèquement liées. Au niveau international, ça a été popularisé avec l'idée de dette écologique, mais également au sein même des pays développés. On l'a vu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que il y a une fraction de la population qui a tout à fait les ressources pour absorber les mesures qui doivent être prises, notamment si on mettait une taxe carbone, par exemple. Et puis, il y a une fraction de la population qu'il faut absolument accompagner, parce que c'est tout simplement invivable pour elle, certaines mesures qui devraient être prises pour qu'on aligne notre action sur nos propres engagements. Voilà. Et donc, cette question du lien indissociable entre transition écologique et transition sociale se retrouve à toutes les échelles, au niveau international, au niveau national, au niveau des territoires.
Audrey Garrig, quelques mots peut-être avant de vous laisser rejoindre justement vos activités journalistiques.
Sur l'enveloppe, la promesse des 100 milliards de dollars, comme disait Lucie Pinson, effectivement, c'est indispensable pour les pays du Sud. Et Tina Steggel aussi, elle rappelle que c'est, d'après elle, le moins que le monde puisse développer, puisse faire. Or, le problème, c'est que pour l'instant, c'est 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020, on n'y est pas. Et à la fois, il y a le problème de la quantité et à la fois le problème de la qualité, puisque sur cette somme, pour l'instant, très peu de fonds sont débloqués pour l'adaptation aux impacts du changement climatique et pour les pays les moins avancés qui sont les plus grandes victimes du changement climatique.
En tout cas, merci Audrey Garrig pour ce portrait de Tina Stage. Et puis, je précise que toutes les informations sur ce sujet, sur vos articles, bien sûr, sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr. Merci à vous.
Merci.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Des milliards d'euros distribués quoi qu'il en coûte pour sauver l'économie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Mais la France est déjà endettée. Une dette qui explose et qui pourrait même dépasser les 120% du PIB à cause du coronavirus. Alors certains aimeraient que l'on puisse annuler cette dette, notamment certains élus de gauche. Pour eux, ce serait le seul moyen de régler la facture sans passer par une politique d'austérité.
Ce que ça permettrait, c'est que nous ne vivions pas sous une épée de Damoclès qui est celle de la dette, et au nom de la dette, on baisse les dépenses publiques, on baisse les dépenses de santé, etc. Enfin, ce que nous avons vécu pendant 20 ans.
Mais comment faire? Est-ce que cela est techniquement possible. Oui, selon certains économistes, la Grèce par exemple, a déjà négocié il y a quelques années avec la Banque Centrale Européenne l'effacement d'une partie de sa dette. Mais selon d'autres économistes, supprimer la dette d'un pays comporte des risques.
Si un pays annule sa dette, il n'est plus du tout crédible. Parce que l'État français va vouloir de nouveau s'endetter, alors là, les investisseurs vont lui faire payer très cher. Et donc les taux d'intérêt qu'on paye sur la dette, qui sont aujourd'hui à 0%, vont augmenter très fortement. Et si les taux d'intérêt augmentent, ce sont les taux de crédit. Donc ça veut dire que l'investissement va s'effondrer, l'immobilier va s'effondrer, la consommation va s'effondrer.
C'est pour cette raison qu'aujourd'hui la Cour des comptes appelle la France à faire un effort pour maîtriser sa dette publique. Car même avec un rebond de la croissance, il faudra des années pour effacer les effets de la crise du coronavirus.
C'était un reportage diffusé sur France Info le 1er juillet 2020. Laurence Sialhomme, peut-on imaginer l'annulation des créances détenues par la BCE ?
C'est une des solutions. Je voudrais revenir sur cette histoire de dette, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus chez les économistes de droite et de gauche, tous les économistes, pour dire que le pire qu'on pourrait faire, c'est un retour à l'austérité à peine la crise aiguë passée. Et donc, cette idée de il faut absolument continuer à dépenser, à faire des investissements pour la transition écologique, je pense que ça, c'est une idée largement partagée. Certains, par contre, disent que, en fait, comme la BCE met hors marché d'une certaine manière les dettes publiques et que les taux d'intérêt sur la dette publique sont en termes nominaux négatifs, qu'il y a une grosse appétence en fait des investisseurs pour la dette publique, eh bien il ne serait pas nécessaire ni d'annuler la dette ni de la monétiser. Donc il y a plusieurs options. Et de ce point de vue, je suis d'accord, il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette aujourd'hui. C'est-à-dire que économiquement, les États peuvent continuer sans aucun problème à investir massivement dans la transition écologique après la crise de la Covid. Le problème étant que la doxa sur le ratio dette sur PIB et sur la nécessité de le maîtriser et de le réduire, on craint fort, enfin les économistes qui comme moi plaident soit pour la monétisation, soit pour l'annulation, craignent fort que à peine la crise passée, au nom de la réduction de ce ratio dette sur PIB, qui pourtant, alors que la dette est parfaitement soutenable, on revienne à une politique qui nous empêchera de réussir en fait la reconversion écologique de nos économies. Et ce faisant, une des solutions pour laquelle je plaide, mais je suis également pour la monétisation, c'est l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE, qui serait conditionnelle à ce que l'usage des fonds ainsi annulés, eh bien, soit intégralement utilisé pour l'investissement, pour la transition écologique et l'accompagnement des secteurs échoués et l'investissement vert.
Alors, Laurence Sialhomme, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé jusque-là, mais vous l'abordez largement dans votre livre, c'est le fait que c'est un univers, celui de la finance, où les collusions, lobbying, les conflits d'intérêts entre le monde politique et le monde financier sont une réalité. Les fameuses portes tournantes dont vous parlez, là, c'est quand même aussi un point important.
Bien sûr, c'est un frein important, c'est ce qu'on appelle la capture, c'est tous les moyens que peut utiliser une industrie, et c'est très très fort dans l'industrie financière, pour aligner les politiques publiques sur ses propres intérêts. Et donc effectivement, ça passe par le fait d'offrir des carrières très rémunératrices à des gens qui travaillent dans des cabinets ministériels, à la Direction Générale du Trésor, enfin bon voilà. Et donc, qui, d'une certaine manière, la perspective d'aller travailler dans l'industrie, bien ça infléchit probablement la manière dont on soit les réglementations, mais il y a aussi des captures beaucoup plus insidieuses qui passent par le fait leur formation, la même vision du monde qui est partagée, donc des captures intellectuelles d'une certaine manière, sociologiques, et ça c'est particulièrement fort en France et en Europe. Il y a un think tank qui s'appelle Corporate Europe Observatory qui à Bruxelles travaille sur la quantification en fait de ce lobbying, et les résultats sont effarants quoi. Et effectivement, il est très difficile de desserrer les taux dans ces conditions.
Lucie Binson, sur le terrain, vous percevez justement ces connexions qui sont faites et donc aujourd'hui renseignées entre ce monde politique et ce monde financier ?
Ah oui, bien entendu, à beaucoup de niveaux. On peut revenir sur la résolution à l'Assemblée générale de Total. Il est certain que des banques vont sur plusieurs niveaux, mais une des raisons pour lesquelles elles vont rechigner à voter un engagement pourtant cohérent avec avec ce qu'ils ont pris en matière climatique, eh bien, c'est aussi parce que on va retrouver des gens de BNP au bord de Total et inversement. Il y a ces connivences ou encore entre un des membres du conseil d'administration d'AXA et le COMEX d'Engie. Donc voilà, on a des liens personnels. On a aussi, on peut penser à un proche conseiller de François Hollande qui travaille aujourd'hui chez le plus gros gestionnaire d'actifs français. Donc ces liens-là, ils sont évidents et ça se traduit concrètement par un refus ou un renoncement de Bercy, enfin renoncement encore faudrait-il qu'il y ait vraiment une volonté de réguler la finance. On peut quand même rappeler l'engagement de Bruno Le Maire en 2018. Il a lancé au Climate Finance Day un appel à la place financière de Paris, appelant les banques, les assureurs, les investisseurs à se doter d'une politique de sortie du secteur du charbon, menaçant de le rendre contraignant si cela n'était pas suivi des faits. Aujourd'hui, et notamment en raison des ONG et de leur pression maintenue sur ces acteurs financiers, on a environ la moitié des plus gros acteurs de la place qui ont des politiques, en tout cas sur les critères, qui répondent à l'objectif. On l'a vu dans le documentaire que encore faudra-t-il qu'elle soit bien appliquée. Mais le problème, c'est qu'on a plus de la moitié qui n'a pas donné suite à cet appel-là, qui n'a pas tenu promesse et qui n'a pas de politique de sortie du secteur du charbon. Voit-on aujourd'hui le gouvernement être prêt à sanctionner, à pénaliser ? Nullement. Et ça se traduit également par les liens très forts entre Bercy et les fédérations professionnelles ou encore avec les grandes banques et gestionnaires d'actifs français.
Laurence Yalom, dans la minute 30 qui nous reste, est-ce que vous diriez que les banques durables, les néobanques vertes, plateformes de financement participatif, des jeunes pousses solidaires, sont à terme une proposition qui peut satisfaire les citoyens ?
Eh bien, écoutez, je pense, oui, que encore faudrait-il que les réglementations favorisent leur essor, mais je pense que ce qu'on appelle les banques éthiques et alternatives ou les circuits courts de la finance, ça répond à une aspiration, notamment des épargnants, de savoir ce qui est fait de leur argent. Quand vous mettez votre argent dans une banque comme BNP Paribas ou la Société Générale, une grosse banque, vous ne savez pas en réalité de quoi sont composés les portefeuilles, vous ne savez pas véritablement ce que vous financez. Or, maintenant, il y a des opportunités, des possibilités d'avoir des circuits courts de la finance ou des banques éthiques et alternatives, mais les gros acteurs s'opposent au fait que les régulations soient formatées pour permettre à ce type d'acteurs de s'implanter. J'en veux pour preuve l'impossibilité qu'a eu la banque Triodos de s'implanter en France. Et on comprend bien que ces gros acteurs ont très peur de cette concurrence qui, je pense, correspond vraiment aux aspirations des épargnants.
Et ça représente quel pourcentage d'épargnants ?
Ouh là, c'est très, enfin, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est très faible. Non, mais c'est surtout très faible. Nous, en France, on n'a qu'une seule banque éthique et alternative qui fait partie du GABV, qui est le réseau international de ces banques. C'est le Crédit Coopératif, et lui-même est adossé à une banque systémique. Vous voyez, c'est compliqué.
Merci à toutes les deux. Merci Lucie Pinson, merci Laurence Yalom. Laurence Yalom, je rappelle le titre de votre livre, La fascination de l'ogre ou comment desserrer l'étau de la finance, un livre paru chez Fayard. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations, la bibliographie, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement et réécoute à votre disposition. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Et puis je le précise aussi, il y a toujours à votre disposition la nouveauté en ce mois de décembre. Les idées de livres coup de cœur cadeaux proposés par Anaï Morales sont à découvrir sur le site. Et puis dans cette période de fin d'année, nous nous retrouverons désormais le 5 janvier pour une émission consacrée au numérique vertueux et nous serons avec Frédéric Bordage, Vincent Courboulet et Sophie Comte en partenariat avec le magazine Chute. La semaine prochaine, du lundi au vendredi à 21h, France Culture vous proposera en écoute une série intitulée Les philosophes amoureux de Raphaël Antoven. D'ici là, bon Noël à tous, tous nos vœux et le meilleur à venir et puis un grand coup de chapeau à toute la petite équipe qui m'accompagne tout au long de ces émissions. Je pense à elle très fortement. Restez à l'écoute sur France Culture, c'est la suite de vos programmes. Dans un instant, le journal de la rédaction.